Strasbourg pilote, arts et lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Pierre Lemaître, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, scénariste français, vous avez eu le prix Goncourt en 2013 avec un livre extrêmement illustre puisqu'il a donné lieu à un film et puis aussi qui a remporté le prix Goncourt. Il s'agit de Au revoir là-haut. Là, vous faites paraître aux éditions Albin Michel un volume, un roman qui est la troisième partie de la trilogie intitulée Les enfants du désastre, et cette trilogie comprenant Au revoir là-haut, Couleur de l'incendie et Miroir de nos peines, justement le livre dont nous allons parler. Est-ce que vous pouvez nous présenter et nous dire un mot de cette trilogie du fil rouge entre les trois opus ?
Eh bien écoutez, la trilogie s'appelle les enfants du désastre parce qu'elle est en fait consacrée à des personnages dont la vie a été en quelque sorte sacrifiée à la fois par la Première Guerre mondiale pour la génération des années 20, par le bouleversement par la montée du fascisme dans les années 30 et par la Seconde Guerre mondiale dans les années 40. En fait, on a quasiment trois générations, si on considère chaque décennie comme une génération. Chaque génération a été en quelque sorte sacrifiée sur l'autel de cette période tourmentée et même torturée.
Alors, quel est le lien de note du livre dont nous allons parler, Miroir de nos peines, avec les deux autres éléments de la trilogie ?
Alors, j'ai fait pour cette trilogie, alors j'espère que vos auditeurs vont entendre les guillemets que je mettrai au mot balzacien pour qu'ils n'aient pas le sentiment que c'est de ma part de la prétention ou de l'immodestie, mais je me suis inspiré du modèle balzacien pour prendre pour chaque roman un personnage principal qui se trouvait un personnage secondaire d'un roman précédent. Ainsi, Miroir de nos peines qui paraît cette semaine a pour protagoniste principal une jeune femme, Louise, qui a 30 ans et qui était la petite fille qui avait alors 10 ans en 1920, la petite fille qui était l'une des héroïnes de Au revoir là-haut. Héroïne discrète, personnage secondaire, mais qui avait, je dirais, un potentiel narratif, un potentiel, je dirais, affectif, psycho-affectif relativement important et suffisamment pour qu'on puisse les lire, en tout cas c'est ce que j'avais envie de faire, les lire au rang de personnage principal d'un roman à part entière. Le seul personnage que l'on va retrouver, c'est la petite Louise, donc 20 ans plus tard, 20 ans après, si je puis dire, dans les pas de mon maître Dumas. 20 ans plus tard, on retrouvera la petite Louise, mais aucun des autres personnages d'Au revoir là-haut, sauf que, ce qui va arriver dès les premières pages à la jeune Louise, qui a maintenant 30 ans, va faire en quelque sorte retour sur le passé qu'elle avait avec Édouard Péricourt, et j'en laisse un petit peu la surprise au lecteur qui nous feront l'amitié de s'intéresser à ce livre.
Alors, ce livre s'intéresse donc à la période de 1940 et jusqu'à la fin, là où il y a l'exode.
Oui, tout à fait. En fait, le livre va se dérouler sur un laps de temps relativement court. Il va commencer au début de l'année 40 et se terminer en juin. En fait, je crois que le roman doit se dérouler sur une période de 4 ou 5 semaines. Enfin, j'ai pas fait vraiment le calcul, mais c'est ça. Et donc, on assiste aux dernières semaines de la drôle de guerre, ce qu'on a appelé la drôle de guerre, c'est-à-dire au fond une espèce de guerre déclarée mais relativement immobile, une guerre qui a été appelée une drôle de guerre parce que c'est une guerre très bizarre, une guerre où il y avait simplement quelques escarmouches mais pas véritablement de guerre, et soudain les troupes de Hitler vont envahir la France par les Ardennes, là où ils ne sont pas attendus. Et en fait, dans ces 5 ou 6 semaines peut-être que dure le roman, on assiste au dernier jour de la drôle de guerre, à la débâcle de l'armée française face aux armées des envahisseurs nazis, et à l'exode massif de 10 ou 11 millions de personnes qui, du Luxembourg, de Belgique, du nord de la France et de Paris, vont prendre la route en direction d'Orléans, en direction de la Loire. Et donc c'est dans ce contexte à la fois d'attente pour le début du roman, l'attente d'une guerre qui n'arrive pas, qui résonne un peu comme le désert des Tartares de Dino Buzzati, et cette guerre farouche et extraordinairement rapide, cette blitzkrieg comme on l'a appelé, eh bien c'est dans cette période-là que se trouve le drame de la petite Louise qui va courir après un secret de famille et qui n'aura pas d'autre possibilité pour mettre à jour ce secret de famille que de prendre elle aussi le chemin de l'exode pour aller retrouver quelqu'un qui détient la clé de son mystère.
Alors pour incarner un petit peu, pour donner une illustration avec des personnages importants de votre roman « Miroir de nos peines », il y a au front le jeune lieutenant Raoul d'Andrade qui, lui, ne se fait aucune illusion. Son bataillon se fera croquer en 2 temps, 3 mouvements. Lui, il est lucide. Et puis à Paris, il y a la jeune Louise Belmont, celle dont vous avez parlé, qui est complètement sidérée par la proposition que lui fait un vieux médecin qu'elle sert dans le petit restaurant où elle fait le service. Elle sert depuis des années, puis ce monsieur qu'elle connaît depuis longtemps, ce vieux médecin, lui fait une proposition hallucinante. Et là, c'est le nœud du roman au niveau de ce qui se passe entre la jeune Louise Belmont et puis la suite, même on évoque même le secret de sa maman défunte.
Tout à fait. Alors évidemment, je n'ose pas trop raconter le début du livre parce que vous voyez, dans le domaine dans lequel j'écris des romans d'aventure. Donc dans les romans d'aventure, je sais bien que le terme est un peu méprisé, hein. On regarde avec un petit peu de condescendance le terme de roman d'aventure, mais Au revoir là-haut, qui a été, comme vous le rappeliez gentiment tout à l'heure, prix Goncourt, a été quand même reconnu comme étant une littérature suffisamment légitime. Donc je pense que cette expression de roman d'aventure, on peut l'employer aujourd'hui sans crainte. Dans ce genre de roman, il faut réserver au lecteur des surprises dès le départ. En fait, il faut que assez rapidement l'intrigue se noue autour d'événements suffisamment forts sur le plan psycho-affectif pour que le lecteur puisse rentrer dans la situation et vivre à l'intérieur de l'intrigue et vivre aux côtés des personnages. Donc, en fait, ce que vous avez raconté, c'est juste le début du livre et je m'interdis un petit peu, par égard pour les lecteurs, d'aller plus avant parce que ce serait déjà leur dévoiler les premières surprises du livre.
Alors, comment est né ce livre lorsque vous avez fini le premier roman de cette trilogie, donc Au revoir là-haut, qui a été couronné d'un prix Goncourt, et puis il y a eu le film qui a remporté un César, je crois. Il y a eu ensuite Couleur de l'incendie, et voilà que vous allez vous mettre à écrire Miroir de nos peines. Alors, quelles étaient les choses inabouties ou bien des choses potentielles d'une écriture et qui ont présidé à l'écriture de Miroir de nos peines?
Eh bien, écoutez, je vais vous dire, le livre est né d'une certaine inconséquence. J'avais été un peu inconséquent lorsque, en 2012, lorsque j'ai terminé Au revoir là-haut, j'ai inscrit dans l'épilogue une phrase dont moi-même je ne mesurais pas l'importance. Je disais, voilà, dans l'épilogue, où je disais un petit peu ce qu'étaient devenus les personnages dans les années qui suivaient l'aventure principale d'Au revoir là-haut, je disais, et puis voilà, le destin de la petite Louise n'a pas été remarquable, du moins jusqu'à ce qu'on la retrouve dans les années 40. Bon, j'avais inscrit ça, vous savez, à la manière de ces feuilletonistes qui laissent toujours des portes ouvertes pour le cas où ils auraient besoin d'emprunter un couloir. Il n'y a rien de plus pénible que d'avoir fermé une porte narrative du couloir dans lequel on aurait maintenant envie de s'engouffrer. Donc par prudence, on laisse toutes les portes ouvertes et toutes les fenêtres ouvertes pour pouvoir rentrer dans cette maison par toutes les issues possibles. Et donc j'avais laissé ça à l'état d'intention, mais je dirais un petit peu inconséquente parce que au moment où je l'écris, je n'ai aucune aucune idée ni de qui sera Louise 20 ans plus tard, ni de ce qu'elle fera, ni de cette promesse de quelque chose de surprenant qui pourrait lui arriver en 1940, j'en avais pas la moindre idée. Je l'ai inscrit, j'ai envie de dire, comme une espèce de mesure conservatoire, comme une manière de garder un fil avec ce roman. Et puis, lorsque il y a 2 ans, je me suis attelé à ce 3e volume de la trilogie, ben, j'ai relu cette phrase et je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai été inconséquent d'écrire ça? C'est extrêmement imprudent parce que je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il va falloir faire. Et puis, en fait, les choses sont venues assez rapidement grâce à l'événement que vous avez esquissé dans votre présentation, la proposition du docteur Tyrion qui lui est fait et qui va, en quelque sorte, produire un retour du refoulé chez Louise, retour de son histoire personnelle et présentation d'un mystère de famille qui va la bouleverser, qui va changer sa vie. Mais en fait, c'est venu assez rapidement, mais sur le coup, quand j'ai commencé le livre, je ne vous cache pas que j'ai regretté un tout petit peu la facilité, vous voyez, l'espèce de désinvolture avec laquelle j'avais écrit cette première phrase, avec laquelle maintenant j'étais terriblement lié pieds et poings.
Alors justement, je voulais vous dire que le roman démarre avec énormément de réalité, de puissance, avec en quelques pages, l'intrigue est déjà dessinée, montée, avec une structure qui va se déployer tout au long de toutes les pages. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une carte de vie très forte dès les premières pages.
Je crois que nous sommes devenus des lecteurs pressés. Si je regarde le lecteur que j'étais il y a une vingtaine d'années, je vois un lecteur beaucoup plus patient qu'aujourd'hui. Quand je commençais un livre qui ne me passionnait pas, je lui laissais sa chance pendant 60, 80 pages. C'était pas du tout rare que je lise 90 ou 100 pages d'un roman avant de me dire, non, décidément, ce roman ne me plaît pas, je vais pas aller au bout. Et je lui donnais quand même 100 pages, je lui donnais sa chance. Aujourd'hui, je me rends bien compte, et je crois que tous les lecteurs font un peu comme moi, pour des raisons culturelles qu'on pourrait d'ailleurs esquisser rapidement, nous sommes devenus des lecteurs plus impatients. Si au bout d'une quinzaine de pages, le roman ne nous a pas séduit, il y a bien des chances pour qu'on l'abandonne. Sachant que je suis devenu ce lecteur-là, et que je suppose que beaucoup d'autres lecteurs ont les mêmes réactions que moi, eh bien je m'efforce de faire en sorte de capter l'attention du lecteur, de le capter souvent par un événement que j'estime, ou que j'espère, à haute puissance affective, quelque chose dans lequel le lecteur ou la lectrice va s'immerger, peut-être dans lequel il va se reconnaître, pour être à côté du personnage. À partir du moment où le lecteur est à côté du personnage, il nous donne après le crédit qu'on peut avoir de temps en temps dans un roman, quelques longueurs, j'essaie de ne pas en avoir, mais inévitablement certains lecteurs vont trouver que tel ou tel épisode est un peu long, mais à partir du moment où il est aux côtés des personnages, il nous donne du crédit, il va suspendre un petit peu son esprit critique parce que il a envie de savoir comment les choses vont évoluer et comment elles vont se terminer. Mais cette confiance que le lecteur nous donne, il faut la mériter dès les premières pages, d'où le soin que j'apporte au début des romans.
Nous pouvons remarquer que la grande histoire et les destins particuliers se marient avec art et qu'il y a beaucoup d'humour. La grande histoire, je mentionnais quoi, l'exode de 1940, qui est pour vous un phénomène unique dans l'histoire. Qu'est-ce qui pour vous incarne, cristallise cette importance de l'exode de 1940?
Eh bien, écoutez, l'une de mes surprises, c'était de me rendre compte, lorsque je me suis intéressé à cette période, que très peu de romanciers s'étaient penchés sur cet événement. Quand même, c'est quelque chose de tout à fait surprenant. Il n'y a pas beaucoup d'exemples, et peut-être même n'y en a-t-il aucun dans l'histoire de notre pays, d'un moment où 10, 11 millions de personnes vont, en l'espace de 2 semaines, prendre la route pour aller vers le sud sans savoir ce qui va leur arriver, sans savoir même où ils se rendent, ni même avoir élucidé la raison pour laquelle ils partent. Donc c'est un événement de panique collective qui va saisir 10 millions de personnes. Et 40% de Paris va se retrouver sur les routes. Donc c'est un événement considérable, et bien dans les romans, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a un livre de Némirovski, j'ai trouvé un bouquin de Sagan, un bouquin de Sabatier, deux, trois trucs, mais franchement, je me suis dit, mais pourquoi les romanciers ne sont-ils pas allés vers cet épisode qui est un épisode majeur et formidablement romanesque? Et j'ai fait l'hypothèse que c'était une période dont les Français n'avaient pas eu envie. Je crois que ça renvoie, cette période-là renvoie peut-être aux Français une image d'eux qui n'est pas très valorisante, l'image d'un peuple qui a perdu les pédales, qui s'est laissé saisir par la panique, un peuple en fuite. Et j'ai l'impression que pendant très longtemps, cette période, au fond, n'a pas été désirée, et les romanciers ont très bien compris que s'ils faisaient des romans sur ça, il y a peu de chances pour qu'ils trouvent beaucoup de lecteurs. Et mon hypothèse, c'était qu'il y avait maintenant prescription, nous sommes en 2020, cette histoire a maintenant, il a coulé de l'eau sous les ponts. Il y a même beaucoup de jeunes générations qui ne connaissent l'exode que comme ça, de manière un peu abstraite, pour l'avoir croisé au lycée lorsqu'ils étudiaient le XXe siècle. Donc j'ai fait l'hypothèse qu'on pouvait maintenant parler de l'exode et qu'on pouvait essayer de regarder comment les gens avaient réagi dans cet événement tout à fait considérable, tout à fait extraordinaire. Et le succès que le livre connaît aujourd'hui, puisque en fait il semblerait que les lecteurs s'y intéresse, me font penser que j'ai peut-être fait le bon pari d'imaginer que c'était le bon moment pour leur parler d'une période dont hier encore ils n'avaient pas envie d'entendre parler.
Alors Pierre Lemaître, pour finir, est-ce que vous pouvez nous donner une explication de ce titre, « Miroir de nos peines » ?
Eh bien écoutez, j'ai été plutôt heureux avec les titres de la trilogie. Habituellement, je ne suis pas très heureux pour le choix de mes titres. Mais pour la trilogie, je trouve que les trois ont un joli titre. Et jusqu'à présent, les titres, je les ai, pour Au revoir là-haut, c'était le cas, pour Couleur de l'incendie, c'était le cas, je l'avais trouvé ailleurs, dans une poésie, dans de la correspondance. Et cette fois-ci, c'est tombé vraiment sous la plume au moment où Louise regarde l'exode qui se déroule devant elle. Elle est elle-même dans des conditions de survie quasiment tragique, et elle voit en fait cet exode comme le miroir des peines et des chagrins de tout un peuple qui se sent trahi par l'armée, trahi par la politique. Au fond, c'est un pays de vaincus, et au fond, cet exode devient le miroir de la peine du peuple que, d'une certaine manière, Louise vient à incarner dans ce roman.
Je vous remercie beaucoup, Pierre Lemaître.
C'est moi qui vous remercie de votre gentillesse.
Miroir de nos peines, qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup et à très vite.
Merci
beaucoup.
Merci encore à vous.
Au revoir.
À bientôt. Au revoir.
Annie Bloch, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes socio-anthropologue et vous venez de faire paraître aux éditions Michel Oudiard un livre très intéressant, Une famille juive du temps de l'Exode. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce livre, nous présenter ce qu'il contient ?
C'est un travail sur plusieurs années qui correspond à des premières enquêtes que j'ai élaborées lorsque j'étais en Alsace dans les années 2000. Et à partir de ces travaux, j'ai ensuite interrogé des proches, et notamment ma mère, qui m'a alors confié un petit carnet de recettes qu'elle avait écrit en 1940, lorsqu'elle se trouvait en Haute-Loire, lors de l'Exode, avec sa famille. Et ce carnet de recettes comprend 150 recettes qu'elle a écrites en 4 mois. Et donc, à partir de là, je me suis interrogée sur l'histoire de cette famille et l'histoire des savoirs culinaires de ces familles. Elle indiquait notamment des noms de ses proches, de sa mère, de sa tante, de ses cousins, et également d'une dame totalement inconnue pour moi qui s'appelait Madame Aldon. Donc, je suis allée à la recherche de ces personnages à partir des années 2000, et j'ai construit peu à peu l'histoire de ce carnet et l'histoire de cette famille.
Alors votre maman, c'est Yvonne Dauquès. Elle n'a pas 20 ans, et lorsque, avec ses parents, elle quitte les Vosges pour rejoindre le sud de la France. Après 2 jours de voyage, ils s'arrêtent à Saugues, c'est en Haute-Loire, et ils y restent 4 mois. Et c'est de juin à octobre 1940. Et là, elle écrit des recettes. Elle quitte les Vosges et elle essaye de trouver un endroit pour survivre par rapport aux restrictions de Vichy. Elle écrit des recettes. Quel est, pour selon vous, qui êtes socio-anthropologue, le rôle de la cuisine et pourquoi a-t-elle écrit ces recettes ou plutôt qu'un petit conte ou un petit poème?
Ouais. Alors d'abord, pour faire une relation entre conte, poème et recette, je crois qu'il ne faut pas faire trop grande différence, parce que les recettes, on peut les considérer comme des récits et même, je dirais même, presque comme des contes. Alors pourquoi elle écrit-elle ces recettes? Ça, ce sont des questions que je n'ai pas pu lui poser, que je n'ai pas pensé lui poser, mais il y a plusieurs hypothèses. Donc c'est ce que j'essaie de révéler dans cet ouvrage. Alors la première hypothèse est la plus prosaïque, c'est-à-dire qu'elle vient de se fiancer. Elle s'est fiancée en août 39 et comme vous le savez, à cette époque, de nombreuses femmes à cet âge-là disposaient, préparaient un trousseau, mais également établissaient tout un carnet de recettes pour se préparer à son rôle de maîtresse de maison et pouvoir aussi nourrir son futur conjoint ou son conjoint et plus tard, bien sûr, sa famille. Ça faisait partie d'un dispositif que les femmes préparaient, les jeunes femmes préparaient avant de se marier. Alors ça, c'est la première hypothèse. Et la deuxième raison qui peut être s'ajouter, c'est que pendant 4 mois, elle a rencontré certainement un nombre de personnes, dont sa logeuse, qui elle-même, je l'ai découvert donc l'année dernière, lors de l'enquête sur Saul, avait disposé d'un très très joli carnet de recettes. Et elle a emprunté à sa logeuse, qui était une femme très intelligente, très cultivée et qui devait sans doute cuisiner lorsqu'elle recevait des dames pour le thé, même en période de guerre. Elle a emprunté un certain nombre de recettes qu'on peut appeler du terroir et qu'elle a intégrées dans ce carnet. Donc ça, c'est la deuxième hypothèse. Et la troisième hypothèse, c'est que je pense qu'il y a une logique de survie à cette époque-là et on essaie d'essayer de rassembler ce qui fait et ce qui construit son histoire et son patrimoine, matrimoine, je dirais plus volontiers. Et donc, elle a essayé de se souvenir de ce qui était très important pour elle, et notamment ce que lui avait transmis sa famille et ses cousins, ses parents, et elle a rassemblé ce carnet. Et quatrième hypothèse, un questionnement, quelque chose d'ouvert qui n'a pas de réponse, parce que cela, ça reste des hypothèses, mais je n'en sais pas, je ne peux pas dire et affirmer vraiment pourquoi. Ce sont simplement quelques idées qui me sont venues lorsque j'ai fait ces recherches.
Alors, la mémoire des nourritures familiales dans l'exil joue un rôle très très important. Il s'agit d'un ancrage dans la vie du quotidien, en quelque sorte pour essayer d'apporter un peu de paix face au désarroi, aux incertitudes, à la faim, à la terreur du lendemain. C'est vraiment très très lourd de bénéfices que ce vecteur des nourritures familiales.
Tout à fait. Si vous voulez, il y a quand même à partir d'août 1940, comme vous l'avez mentionné, le début de la mise en place des tickets de rationnement. Mais nous sommes, heureusement, comme le signale également Serge Clarcel dans son introduction, dans une région où, très rurale, où les entourés de grosses fermes qui élèvent des ovins, des bovins, et qui disposent également de jardins où on peut trouver à manger. Donc on peut imaginer que réfugiés, ils sont allés dans les fermes aux alentours pour essayer de trouver de quoi se nourrir au-delà même des tickets de rationnement, mais qui ne rationnaient pas tout, et notamment des légumes qui pouvaient être achetés sans rationnement. Par contre, la viande, le lait, les crèmes, tout cela était rationné. Mais on peut dire que les réfugiés en début 40, dans ces régions, n'ont pas vraiment souffert de la faim. C'est peut-être une raison, mais il y a sans doute l'idée qu'il faut tenir, qu'il faut survivre. Et dans ces cas-là, il y a ce qu'on appelle les nourritures du quotidien, mais il y a les nourritures imaginaires, ce qui fait partie d'un héritage familial et qu'elle a mobilisé durant ce court espace, 4 mois, c'est pas énorme pour écrire un carnet de recettes, de 150 recettes. Et pour elle, ça a dû être une trousse de survie. Et pour elle, ça a dû être extrêmement important, comme cela a été très important dans d'autres circonstances, dans des moments très très durs où des jeunes femmes étaient détenues dans des camps de déportation, comme l'ouvrage de Carmen Mina, et des petits groupes de femmes, et même parfois d'hommes, là ça se passait à Theresienstadt, se regrouper pour essayer de se souvenir des nourritures et des recettes que l'une et l'autre savaient faire, et c'était pour elle une manière de survivre.
Alors ce savoir-faire, la cuisine, ce corpus de recettes, c'est un héritage transmis sur plusieurs générations, de femme en femme. Est-ce qu'il y a eu des hommes, puisqu'on a parlé de matrimoine, cette connaissance, ce savoir-faire culinaire, est-ce qu'il y a eu des hommes, vous avez pu trouver certaines recettes qui provenaient d'hommes qui auraient pu être cuisiniers?
Alors, sans doute, il y a eu des hommes qui avaient des savoir-faire, notamment la saucisse de l'estomac de Langewurst. Et quand on était boucher, on savait préparer un certain nombre de plats, comme a été quand il était jeune mon grand-père. Et quand j'ai fait une enquête dans les années 2000 dans les familles alsaciennes, il y avait quelques hommes qui savaient cuisiner, mais c'était vraiment à titre tout à fait minoritaire. Et on peut dire que les choses changent actuellement, parce que l'on rencontre quand même beaucoup plus souvent, à titre disons un petit peu exceptionnel, en fin de semaine, des hommes qui cuisinent. Je ne parle pas évidemment des grands cuisiniers qui sont alors des professionnels. Je parle de cette cuisine au quotidien que ces familles avaient l'habitude de pratiquer.
Alors tous ces noms de recettes, c'est une longue mémoire, c'est un grenier à souvenirs. Et puis il y a la ressemblance du mot « mot » avec le mot « mets ». Et je cite Anne Muxel qui dit « À table, si on mange des mets, on mange aussi des mots ».
Oui, tout à fait. Je pense que ça, c'est quelque chose de très très important, de comprendre que les mots et les mets se rejoignent et s'accompagnent. Et il y avait des ponctuations dans les familles quand on mangeait. Et ce que je raconte, c'est que ma grand-mère me parlait en alsacien ou en allemand. Et elle me disait, quand je mangeais trop vite, elle me disait, mais tu as frayse, c'est-à-dire tu manges comme un animal. Et ça, c'était vraiment très mal. Et puis, on devait toujours commenter ce qu'elle nous servait. Et par exemple, elle me posait la question d'Asmec, qui se dit encore, hein, et d'Asmec Good. Et puis, elle me disait Monochome Good, ça veut dire c'est très bien, tu as une belle âme. Et donc, ce qu'on peut dire, que voilà les termes dont je me souviens, mais c'est ce qui est la nourriture entraîne la parole. Voilà. Et je pense que il n'y avait pas, on disait aux enfants, tais-toi et mange, mais ce n'était pas toujours le cas. On savait aussi, au cours du repas, s'entretenir, ponctuer par ce qu'on mangeait, mais ponctuer aussi par la parole. Et on prenait le temps. Ce que ce sur quoi j'ai insisté, c'est sur le temps, la durée des cuissons des mets, mais le temps qui était complètement différent du temps actuellement, où on savait goûter aux choses et on savait en mesurer la plénitude, le plaisir, parce qu'on savait que c'était des plats qui étaient préparés pendant longtemps et qu'on faisait cuire longtemps. Donc le temps s'écoulait très différemment de maintenant. Et ces femmes, notamment qui étaient, dont les maris étaient des marchands de bestiaux ou des colporteurs, ces femmes étaient levées très tôt, à 5 heures du matin, parce qu'elles préparaient le petit déjeuner de leurs époux. Et surtout, elle recevait chez elle très très tôt des négociants, des clients, et donc il fallait que tout soit prêt. Et tout ça, ça se passait le matin. Et les hommes partaient ensuite dans des marchés ou rencontraient des clients dans différents endroits. Alors, quand ils avaient un certain niveau de vie, ils disposaient à la fin, avant les années 40, d'une voiture, mais beaucoup pouvaient marcher à pied et faisaient de longues marches. Et donc là, on leur préparait à manger avant de partir. Donc c'était un autre mode de vie, je veux dire, qui est quand même très en rupture avec ce qu'on vit actuellement, bien que en période de Shabbat, le temps est complètement différent du temps profane, j'allais dire, du temps du quotidien.
Tout à l'heure, vous avez dit que les plats étaient cuits longtemps, mitonnés, on avait du temps à offrir aux autres, aux autres membres de sa famille, mais il y avait aussi l'idée de ne pas laisser le sang sortir de cette viande, puisqu'il y a il y avait en filigrane le souci du rite cachère.
Oui, il y a deux temps, le temps si vous voulez, le temps de la non-fête, c'est-à-dire où quand même il y avait le travail et on mangeait quand même de manière moins riche et quelquefois avec très peu de choses, hein, surtout le soir. Et il y a un autre temps, c'est le temps festif, le temps qu'on dévolu à la famille, aux enfants, et aussi pour les familles pratiquantes, vraiment le temps avec des prières, le temps du repos et de la réflexion aussi, et de l'étude, et notamment durant le Shabbat.
Alors cette cuisine alsacienne ashkénaze, est-ce qu'elle a pris sa source en Alsace ou elle a été adaptée en Europe de l'Est, en Europe centrale? C'est une cuisine, où a-t-elle commencé à exister?
Il faut voir que la cuisine, elle accompagne les hommes et les femmes. C'est-à-dire que c'est très difficile de savoir quelle était à l'origine, dans les temps du 14e, 15e, disons 16e, quels étaient les modes alimentaires. Mais on la voit se développer beaucoup au 19e siècle, et à la partir du fin du 19e siècle, il y a une forte émigration qui vient d'Europe de l'Est, et notamment de Pologne, qui va s'installer en Alsace et également au début des années 20, qui va influencer la cuisine juive avec sans doute le liver pâté, hein, ce pâté de foie, avec des desserts comme le strudel, le gâteau au fromage, mais également la cuisine juive alsacienne est influencée bien sûr par la cuisine qu'on appelle française entre guillemets, mais également par la cuisine tout simplement alsacienne. Le pot-au-feu est un pot-au-feu alsacien avec de la viande cachère, et la choucroute sera mangée au bec au feu avec de la viande cachère, et le kouglof est quelque chose qui fait vraiment partie de la tradition juive alsacienne. Mais il y a des mets qui ne sont pas connus des Alsaciens, comme le tzemekur. Et quand on parle de tzemekur aux familles alsaciennes, elles ne connaissent pas. Or, j'ai fait le tour d'Alsace et je peux dire que dans chaque famille juive en Alsace, il y a une manière de cuisiner le tzemekur, qui est un gâteau à la cannelle, fait avec du beurre, et chaque famille a une recette différente. Et c'est ça qui est intéressant, c'est non seulement que cette cuisine va circuler, il va y avoir un apport de l'étranger, un apport de la cuisine alsacienne, mais également chaque famille a sa propre manière de faire des plats. Et c'est comme ça qu'on reconnaît le plat de telle personne, et qu'on va manger tel plat parce que cette personne-là, cette parente, c'est une très bonne cuisine et elle sait réussir. Et chaque famille a ses spécialités. Et c'est ça qui est intéressant. C'est à la fois la spécificité de la cuisine juive alsacienne avec tous ses apports, et également la spécificité de chaque famille qui a des plats et de chaque femme qui a un savoir-faire très personnel.
Il y a aussi dans ce carnet le souci de respecter les rituels de la cacheroute. Est-ce que dans toutes ces recettes sont bien vérifiées? On ne mélange pas le beurre et la viande. Est-ce qu'il y a, vous avez vérifié que ce souci est émergent dans ces recettes?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la plupart de ces carnets que j'ai et des cahiers, hein, ce sont des carnets et des cahiers que j'ai examinés, pour la majorité des carnets, il y a une cohabitation avec des recettes qui incluent des plats qui sont pas cachers, avec par exemple la quiche lorraine et des lardons que faisaient des gens comme ma famille avant 40, hein, jusque dans les années 60-70. Les choses ont changé après. Et puis il y a aussi des recettes de gâteaux typiquement juifs alsaciens. Et j'ai constaté ce type même de cohabitation dans les carnets de d'autres familles très intégrées qu'on appelle des Israélites, c'est-à-dire qui n'observaient pas la cacheroute, mais pour autant qui se sentaient tout à fait juives. Et ce phénomène, on le voit assez largement se développer sous la Troisième République, où il y a de plus en plus une laïcisation du judaïsme, alors que les années 70, on voit une espèce de retour à une cacheroute plus rigoureuse, à une plus grande orthodoxie des pratiques, et il y a une très grande séparation entre, disons, des familles qui sont pratiquantes et d'autres qui ne sont plus laïcisées, ce qui fait que ça crée souvent des difficultés au sein même d'une famille pour se recevoir. Et il faut beaucoup de travail au sein de ces familles pour que les unes et les autres s'acceptent. C'est-à-dire qu'on constate dans un certain nombre de familles, aussi bien en Alsace qu'ailleurs, une sorte de pratique très rigoureuse, de plus en plus rigoureuse d'un côté, et des membres des familles qui sont complètement différentes. Et donc, c'est dans les manières de manger, on appelle ça en anthropologie d'un terme un peu compliqué, mais qui se dit, s'appelle la commensalité, c'est-à-dire comment partager un repas lorsqu'on a des pratiques aussi différentes.
Madame Annie Bloch, vous êtes, nous l'avons dit, socio-anthropologue.
Non, je n'entends pas très bien.
Alors, vous êtes socio-anthropologue et vous avez voyagé de nombreuses années entre la France et le Mississippi. Dans quel cadre ?
Tout simplement, j'ai fait une recherche qui a duré assez longtemps pour préparer ma thèse. Au départ, je ne savais pas, j'avais des membres de ma famille qui avaient émigré le long du Mississippi et qui s'étaient dans un petit village. Et ce petit village avait pris le nom de cette famille qui s'appelait Geismar, qui venait de Grussenheim dans le Haut-Rhin et qui sont installés à partir des années 1880 le long du Mississippi, comme beaucoup d'autres familles, à peu près 15%, j'ai retrouvé dans les cimetières de familles qui étaient originaires d'Alsace ou bien de l'autre côté du Rhin. Et donc c'est dans cette recherche, à partir de cette découverte, que j'ai continué et j'ai développé un travail. Et notamment, j'ai écrit à la suite de ma thèse un ouvrage qui s'appelle Les berges du Rhin aux rives du Mississippi en 2009-2010 et qui a été traduit en anglais d'ailleurs.
Votre questionnement porte aussi sur les raisons de la survie et de la continuité des familles israélites qui ont traversé guerre, exil, spoliation, extermination. C'est votre questionnement actuel.
Absolument. C'est une façon, ce livre, c'est une façon de leur rendre hommage. Parce que je me suis interrogée à partir des documents que j'ai retrouvés de ma propre famille, des documents de spoliation, de radiation des commerces dans la petite ville de Remiremont, que j'avais trouvé aussi de l'autre côté paternel, à Nîmes, où on a radié les commerces, ils ont été rachetés, et comment ces familles ont pu survivre. Je pense que ce qui a été très important, c'est que c'était des familles qui étaient ouvertes vers les autres et qui avaient des réseaux de relations de personnes qui n'étaient pas juives et qui les ont beaucoup aidées, qu'ils soient des voisins qui ont gardé leurs meubles ou qui ont gardé leur vaisselle, leurs objets précieux, comme ma famille a dû partir précipitamment de la petite ville de Remiremont dans les Vosges. Et ensuite, ils ont pu, grâce à des réseaux à la fois familiaux et amicaux, mais amicaux, ça comptait beaucoup, qui étaient protestants ou catholiques. Ils ont pu se protéger, ils ont pu se cacher. Il y a eu des villages tout à fait exemplaires, non seulement dans le monde protestant, du côté dans la Drôme, Dieu le fit, mais également, comme nous connaissons bien, dans les Cévennes, du côté Chambon-sur-Lignon, mais également des réseaux catholiques de confréries et de sœurs, les Notre-Dame de Sion, qui a permis aux parents et surtout aux enfants d'être cachés. Et tous les jours, on retrouve des familles qui ont accueilli des enfants et il y a des recherches. Et je pense que cette transversalité qui existait entre les familles qu'on appelait israélites, qui n'étaient pas du tout repliées sur elles-mêmes et qui étaient très en relation avec le monde extérieur, c'est cela qui a permis la survie de ces familles, ce qui n'est pas le cas des familles notamment en Hollande, puisque 90-95% des familles juives ont été exterminées parce que leur mode de fonctionnement était beaucoup plus ce qu'on appelle vertical, c'est-à-dire qu'ils vivaient beaucoup plus en réseau fermé. Et donc ça pose la question de l'importance de l'ouverture et de la relation aux autres pour la survie.
Madame Annie Bloch, merci beaucoup pour ce livre absolument intéressant, passionnant. Une famille juive du temps de l'Exode, avec une introduction de Serge Klarsfeld, et ça paraît aux éditions Michel Oudiard. Merci beaucoup, madame.
Merci à vous.
Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Thank you.